si comme moi vous attendez ce moment toute la semaine? Si dès que l'heure fatidique approche, vous augmentez le son? Attachez vos ceintures, restez derrière vos postes de radio ou de vos smartphones, parce qu'il est prêt. Il replace sa cravate, vérifie ses boutons de manchette, un dernier regard dans le miroir, le voici. Chaque mercredi après-midi, pendant une heure, découverte musicale et culturelle avec Julien. 15h-16h, maintenant j'y vais sur Radio Plus.
Hello, salut à tous, joie, bonheur, maintenant j'y vais, de retour en studio, déconfiné, mais pas imprudent car le virus circule toujours, alors vous soyez prudents dans vos déplacements, dans vos interactions, et nous on l'est tout autant. Oui, les studios sont de nouveau ouverts, mais l'accueil des invités à venir ne se fera pas sans quelques consignes sanitaires strictes et quelques adaptations, et notamment, je sais que vous en êtes aussi triste que moi, les lives acoustiques qui étaient prévus, parce qu'on va reprogrammer les artistes qui étaient attendus durant cette période de confinement. Eh bien, vont devenir difficilement réalisables avant un moment. On espère donc retrouver cette possibilité de vous partager des moments en live d'ici à la rentrée. Au programme du numéro de ce mercredi 13 mai, un invité, lui, qui reste confiné. On aura par téléphone Olivier Galland, le directeur général et artistique du 99 bis de Wany, pour prendre des nouvelles de la structure, savoir quand on pourra de nouveau fouler ce superbe lieu culturel et puis parler aussi un petit peu des conséquences de cette crise inédite. Et puis côté musique, tout ce qui fait l'actualité, les dernières sorties, les indiscrétions, etc., etc. Et pour démarrer, à la cool, justement, en musique, voici Martha Wainwright. Une voix émouvante, des chansons puissantes, notamment sur son dernier album, Goodnight City, qui a tout de même 4 ans. Un nouvel album, c'est dans les souhaits, mais ce n'est pas pour tout de suite. Martha termine d'abord l'écriture d'un livre. Mais histoire de se remémorer de bons moments, elle nous a délivré ce titre, enregistré lors justement des sessions de captation de Goodnight City, mais qui a fait partie des titre pas spécialement retenu à l'époque, un titre où elle collabore avec son frère Rufus. Voici Wolves, et juste après, c'est Olivier Galland qui sera avec nous.
When love shares a secret with your heart, it doesn't matter. Falls apart like the flowers in the park. They are not mine, they are ours. They are not mine, they are ours. One by one they die, like flowers in the dark. Nothing can ever spark. Nothing can ever not spark. Oh, world after world, world. And what she meant so much to me.
Shame and cool down the rain.
Martha Wainwright en duo également avec son frère Rufus sur ce morceau qui s'appelle Wolves. C'était notre premier coup de cœur pour démarrer côté musique. Ce maintenant j'y vais.
La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Vous avez quelques minutes ? Ça tombe bien. Julien aussi. Maintenant j'y vais. Le zoom.
Et le zoom cette semaine nous emmène du côté du 9-9 bis de Wany qui comporte également le Métaphone, salle de concert bien connue et qui, comme tous les lieux culturels, a été victime en quelque sorte de ce confinement. C'était aussi l'occasion, alors que le pays se déconfine petit à petit, de prendre la température et puis l'humeur aussi du côté du 9-9 bis de Wany. Et pour ce faire, eh bien, j'accueille Olivier Galland, le directeur artistique et le directeur du lieu. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Et bienvenue sur Radio Plus. Alors, vous n'êtes pas avec nous en studio parce que, eh bien, le confinement se prolonge aussi du côté du 9-9 bis. Avant d'en parler, tout d'abord, ben, comment ça va depuis le 17 mars et le début de ce confinement ?
Nous allons bien. En tous les cas, nous avons la santé. C'est déjà bien. Hein. Et puis, on s'accroche, on travaille. Et on reste optimiste.
Et ça, c'est important, effectivement, de rester optimiste, parce que le pire n'est peut-être pas encore derrière nous, d'un point de vue de l'épidémie et puis des conséquences qu'il peut y avoir aussi. On va évidemment parler de tout ça, mais j'aimerais qu'on revienne sur ces 55 jours de confinement. Un peu plus, d'ailleurs, en ce qui concerne la partie concert, la partie salle de spectacle, où tout était à l'arrêt. Comment ça s'est organisé au 9-9 bis ? Comment est-ce que vous vous êtes adapté face à la situation ?
Nous avons dû déjà, le jour là, le vendredi, je sais plus, 13 mars, on n'a pas déjà pu organiser un concert qui était prévu alors que le public envisageait vraiment de venir, donc ça a été quand même assez problématique. Et puis après, tous les autres spectacles ont été annulés au regard de la pandémie, donc il a fallu voir si nous pouvions déjà reporter ces spectacles. Il s'avère que nous en reportons beaucoup, quasiment 8 sur 10. Ça a été la première chose. Donc, annuler, reporter, apporter aussi notre solidarité. Il ne s'agit pas juste d'annuler, c'est comment on maintient les salaires du personnel technique, comment on intervient dans les budgets, les engagements budgétaires des groupes ou des producteurs avec qui nous travaillons. Voilà, donc ça a été ça, je dirais, une grande partie du temps. En même temps, pendant ces 50 jours, cela nous a permis d'exhumer des dossiers qui étaient en attente. Nous avons pu y travailler. Il s'avère que nous avons un réseau assez performant. Nous avons tous nos dossiers, nous avons de la vidéoconférence, etc. Donc, on a des échanges continus entre collègues. Et donc, on a continué vraiment à fonctionner en télétravail. Et puis, on a commencé à se mettre aussi au numérique, à faire de la médiation numérique, des visites du 9-9 bis de façon virtuelle, des tutos, des ateliers pour les enfants. Et puis on peut constater qu'en fait ça a très bien fonctionné. Il y a beaucoup de monde qui vient, a eu beaucoup de retours. Et puis on a participé également à un festival national et là depuis quelques semaines nous avons des groupes accompagnés qui jouent en acoustique, qui font des sets acoustiques et qui sont retransmis sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Donc je dirais que si en effet notre activité, si on ne peut pas accueillir de public aujourd'hui, on a encore une vraie activité et vraiment les équipes sont totalement mobilisées pour répondre au quotidien, pour dire que on est là et qu'on existe. Hein. Et puis, c'est vrai que vous parliez de déconfinement. Donc, nous avons repris aujourd'hui, en fait. Alors, nous avons repris de façon partielle une partie de l'équipe seulement. Hein, les salariés viennent une à deux journées sur site. Il a fallu mettre en place, évidemment, toutes les procédures adéquates pour la sécurité de tous. Mais voilà, il y a un retour aussi des équipes, parce qu'il y avait aussi une nécessité, puis il y a une expertise à réaliser pour savoir si on va pouvoir réouvrir les studios, si on va pouvoir faire des résidences d'artistes, enfin voilà. Donc c'est tout ça sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Et puis nous travaillons également à voir si en effet nous pouvons mener des actions culturelles en direction de nos publics. Je pense aux enfants en particulier. Nous avons dû arrêter l'ensemble de des ateliers qui sont donnés par nos musiciens intervenants dans les écoles. Donc là, nous sommes en train de travailler avec l'Éducation nationale pour envisager des projets en distanciation sociale, mais où les enfants pourraient participer. Voilà. Donc c'est vraiment notre quotidien, et au final, ça nous prend vraiment beaucoup de temps. On a aussi maintenu nos réunions. Hein. Nous avions des réunions sur site d'équipe, de pôle, de direction. Eh ben, on les a conservées. Ce qui nous permet de continuer, d'avancer, comme je disais, de rester optimiste, et puis de repenser aussi un petit peu nos process de travail.
Et c'est vrai qu'il y a une vraie petite fourmilière hein, du côté du 99 bis. Il y a effectivement la partie qui rassemble le plus de public. Ça peut être des événements type les rutilants, ça peut être aussi les rendez-vous du patrimoine, le métaphone. Et puis il y a des propositions à beaucoup plus petite échelle en groupe. Tout ça à l'heure actuelle est à l'arrêt. Vous l'avez pas remplacé, mais en tout cas vous vous êtes adapté en faisant des propositions virtuelles. Ça c'est tout nouveau. Alors est-ce que c'est facile à mettre en place? Tant sur le plan logistique, technique, que sur le plan humain. Parce que j'imagine aussi que pour les équipes, il a fallu s'adapter à parler, par exemple, devant une caméra et non plus devant un public.
Alors, c'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais c'est aussi l'effort de chacun qui permet, comme vous disiez, s'exprimer devant une caméra, c'est pas s'exprimer devant un public. Ça demande du temps. C'est marrant, nous avions une réunion d'équipe hier, tous les 30, nous étions donc de façon virtuelle évidemment, et j'avais demandé en effet à des collègues de parler de ce qu'avait apporté quelque part des courriers et puis des nouvelles méthodes de travail, et en effet elles exprimaient le fait que voilà, ça c'était un grand changement et en même temps une vraie plus-value dans nos pratiques professionnelles.
Alors, les conséquences directes de ce confinement, ça a été, on l'a dit, le report des spectacles. Alors, on va parler un petit peu des coulisses. Comment ça s'organise un report, Olivier Galland?
Un report, on appelle le producteur, on dit « ça va pas se faire ». Donc eux, évidemment, disent « oui, ça va pas pouvoir se faire ». Et après, on sort nos agendas et puis après c'est comme travailler sur une programmation, c'est une sorte de Rubik's Cube quoi. On pose des options et puis l'option elle est plus bonne parce qu'ils sont ailleurs ou la tournée ne fonctionne pas ou alors parce que nous on a déjà autre chose, etc. etc. Donc c'est un gros boulot hein, que de repositionner des artistes dans un calendrier. Voilà, et puis c'est nous, on doit s'adapter, le producteur doit aussi s'adapter. Il y a une vraie volonté d'un côté de l'offre. D'une part, parce que nous avions déjà beaucoup de réservations hein, sur des artistes comme Oxmo Puccino, comme Eiffel. Donc, on avait vraiment envie de ne pas décevoir le public et que celui-ci puisse revenir quelques mois plus tard. Et puis, il y a aussi ce lien, cette relation qu'on a avec les producteurs. Donc, quelque part, tout le monde se sentait une obligation, une nécessité par rapport au public, d'une part que nous on puisse le reporter, d'autre part que le producteur puisse trouver les dates qui conviennent à tous pour faire ce report. Donc c'est comme ça que les choses sont montées, c'est-à-dire que on a aujourd'hui, notre programmation est totalement finalisée pour la saison prochaine, mais c'est vrai que sur les nouvelles dates ça a été très compliqué parce qu'il y avait des artistes qui étaient déjà en tournée, donc d'autres salles étaient prioritaires hein, parce qu'elles reposaient elles des spectacles qui avaient été annulés. Donc voilà un petit peu les coulisses, je dirais, de la mise en œuvre de la programmation.
Et ces dates de report, alors, est-ce que ce sont des dates qui s'ajoutent au calendrier déjà de la saison à venir, ou est-ce que ce sont des dates qui s'incorporent dans un calendrier déjà établi? Si par exemple il y a 20 dates sur la saison 2020-2021, est-ce qu'on va rajouter 5 dates de report en plus, ou est-ce que dans les 20 dates, eh bien, on va faire la place pour accueillir ces dates de report?
En fait, il y a plus de dates. On aura plus de dates au prochain semestre si on a la possibilité d'organiser des concerts. Donc et là, ça risque d'être. On verra comment ça va se passer, mais je crois qu'en effet, chaque équipement culturel, salle de spectacle, etc., ont voulu reporter en même temps créer. Donc il risque d'y avoir profusion, je dirais, de propositions à partir de la rentrée. Ça c'est évident. Donc nous avons plus de dates au prochain semestre parce que nous avons souhaité à la fois mettre les artistes qu'on ne devait pas accueillir, et puis en même temps il y avait aussi des envies d'accueillir des artistes qui seront en tournée parce qu'un album vient de sortir, etc. Donc oui, on a une programmation qui est assez costaud au prochain semestre. J'espère vraiment qu'elle pourra se tenir. C'est vraiment aujourd'hui notre inquiétude, hein. Objectivement, on n'a aucune assurance par rapport à ça.
Alors, on a peut-être l'occasion aussi justement de faire un point sur l'agenda à venir. Il y a le report en ce moment de différentes manifestations qui étaient prévues, des concerts qui sont reportés. Je sais qu'il va y avoir ce week-end le concert de Eiffel avec Stuck in the Sound, qui reportait une date ultérieure sans les Stuck in the Sound. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce qui est déjà fixé au niveau des reports, Olivier Galland?
Les reports, oui, Eiffel est reporté donc le 27 septembre, le dimanche 27 septembre. Nous avons Oxmo Puccino aussi, qui est reporté au samedi 24 octobre. Nous avons Tikkun Jafakoli, reporté au samedi 12 décembre. Nice New Beaters, qui devait venir fin avril et ils seront là le samedi 16 janvier. Birds on the Wire, qui eux devaient venir fin mars, le 30 mars, et qui seront chez nous le vendredi 22 janvier. Donc voilà, ça ce sont des reports au niveau des artistes. Alors, ce dont on n'a pas parlé aussi, ce sont les résidents. Vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure, hein, c'est quand même entre 3 et 4 000 visiteurs. On a dû annuler donc cet événement. Évidemment, pas du tout de gaieté de cœur, parce que tout était absolument calé. Donc voilà, ça aussi c'est une grosse déception. Nous avons proposé là aux artistes, nous avons recalé la date au samedi 26 juin 2021. Nous avons proposé aux artistes de venir jouer. Donc quelque part, la programmation est bien entamée pour 2021. Et comme on souhaitait aussi ne pas les laisser comme ça. Alors, les artistes aujourd'hui peuvent bénéficier du chômage partiel, c'est tant mieux. C'est vraiment important qu'ils puissent en bénéficier, parce que sinon c'est des centaines, des milliers d'artistes, de techniciens, de compagnies, de producteurs qui auraient mis la clé sous la porte, qui auraient disparu. Et donc, bon, en même temps, nous avons décidé d'accompagner les compagnies, et donc d'apporter de payer, quoi qu'il en soit, une partie de leur des cachets que nous devions payer au mois de juin.
Et ça, c'est un choix très fort, hein, parce que je crois savoir, c'est ce que vous disiez, corrigez-moi si je me trompe, chez nos amis de PFM, dont vous étiez l'invité il y a quelques jours aussi, que vous avez tenu autant que possible, justement, à accompagner financièrement les salariés de la structure, les compagnies avec lesquelles vous travaillez, les intermittents aussi. C'était important de faire ces choix-là?
Je pense que d'une part c'est absolument indispensable. Si nous ne le faisons pas, je vois pas trop qui pourrait le faire. C'est-à-dire que notre économie le permet. Nous aurions organisé ces spectacles, nous aurions accueilli les techniciens, etc. Donc il y a la nécessité, de prendre en charge. Alors, on a la première chose, c'est que il y a d'abord le personnel direct, que ce soit dans l'établissement ou le personnel que l'on embauche comme les comme nos techniciens, etc. Donc là, oui, il y a la nécessité de conforter et de rassurer. Et puis après, il y a ceux qui dépendent d'autres structures, d'un producteur, compagnie, où là, bon, eux, je le disais, bénéficient du chômage partiel. Et puis après, oui, nous sommes allés au-delà pour aider et soutenir ces... Oui, c'est important, c'est important, c'est nécessaire, et c'est très apprécié d'ailleurs par les compagnies, parce qu'il semblerait que ça se passe pas partout de cette façon, mais après bon, voilà, chacun fait comme il entend.
Alors évidemment, l'absence de rentrée d'argent, notamment au travers de la billetterie, pénalise les économies des salles de spectacle. Est-ce qu'aujourd'hui, le 9-9 bis, le Métaphone, voit l'avenir sereinement sur le plan économique, malgré la crise ?
Alors oui, on le voit. Alors vous avez raison, hein, parce que nous, la billetterie, c'est tout à fait, c'est très important. Mais en même temps, on est également, aujourd'hui, vous savez... si vous prenez un spectacle lambda chez nous avec un billet à 15 €, ce billet, quand le public l'achète, hein, ça couvre quoi? Ça va couvrir le billet, je dirais, et puis peut-être la boisson qui va... Ça va couvrir le cachet de l'artiste, hein, ça va couvrir aussi une partie, je dirais, des coûts de SACEM, un petit peu de la sécu, mais pas la totalité. C'est-à-dire que si, en effet, nous voulions que le coût global de production d'un concert soit couvert à 100%, eh bien, il faudrait que les billets coûtent quasiment le double, quoi. Donc oui, nous n'avons pas de recettes, hein, mais même si objectivement on apporte, s'il y a un apport financier auprès de Pluto ou autre, néanmoins, cela ne vient pas déséquilibrer, hein, notre budget global. On a la chance, nous sommes un établissement public, on a des concerts, mais on a aussi tout un pan lié à l'éducation musicale et patrimoniale. On est un service public, hein, de la culture. En tous les cas, c'est de cette façon que on nous a confié ces missions qu'on travaille au quotidien. Donc nous sommes largement financés par l'agglomération Hénin-Carvin et par le département du Pas-de-Calais. Nous sommes aussi financés par d'autres partenaires comme la région, la SACEM, etc. Mais je dirais qu'en tous les cas, le fait que nous n'ayons pas de concert, ça ne vient pas, je dirais, fragiliser l'équilibre budgétaire global de l'établissement.
Alors c'est vrai, vous l'avez dit, vous êtes accompagné notamment par des structures publiques, départements, régions, communautés d'agglomération. Est-ce que vous ne craignez pas quand même que le lourd tribut économique auquel doivent faire face justement ces structures publiques institutionnelles pour sauver les entreprises, notamment au travers de mesures d'accompagnement, est-ce que vous ne craignez pas que à un moment donné, ça risque de pénaliser le secteur culturel au sens large, et peut-être le 9-9 bis en particulier?
Vous savez, ce qui est sûr, c'est que l'économie globalement sera est largement fragilisée. Après 2021-2022, très certainement que les collectivités, les grandes collectivités, les communes, départements, régions auront des difficultés financières. C'est sûr. Après, quel choix elles feront, moi je ne sais pas. Après, c'est aussi une histoire de choix. Est-ce que nous serons impactés dans les budgets qui nous seront attribués d'ici quelques mois? On verra. Là-dessus, je peux pas vous répondre, mais. C'est sûr que la situation économique, elle va être certainement très compliquée, et que il y aura des répercussions globales. Aujourd'hui, il y a déjà de lourdes répercussions quand on voit le nombre de personnes qui sont au chômage partiel et le nombre d'entreprises qui ont fermé, l'augmentation du chômage, hein. Donc voilà. Donc Peut-être qu'il y aura un impact. Je souhaite que non, évidemment, mais je peux pas répondre aujourd'hui précisément à la question.
Alors, on a parfois un petit peu de mal à imaginer ce qui va arriver pour les salles de spectacle, les salles de concert. On entend beaucoup de choses. On entend par exemple dire qu'il faudra adapter aussi la manière de produire des concerts avec de l'espacement entre les spectateurs, de l'espacement entre les musiciens aussi. Parfois, il y a même certains directeurs de salles qui s'alarment de devoir proposer des spectacles avec des artistes masqués devant un public masqué. On imagine mal aussi, par exemple, pour reprendre l'exemple du 9-9-10, des rencontres public-artistes dans le petit auditorium où on est finalement assez serré quand on est dans le public. Est-ce qu'on réfléchit déjà un petit peu à l'après de ce côté-là au 9-9-10?
Oui, on y réfléchit avec les limites de l'évolution. Hein. On avance pas à pas comme tout le monde, comme notre gouvernement hein, qui apporte des éléments de précision tous les 3 semaines. Donc aujourd'hui, qui est en capacité de dire comment les concerts se dérouleront ou ne se dérouleront pas à la rentrée? Personne, parce qu'on le voit bien même au niveau européen, le traitement n'est pas du tout le même et on peut même imaginer qu'on aura peut-être des approches différenciées selon les zones rouges et les zones vertes. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les préconisations sanitaires, on a du mal à imaginer des concerts. Parce que si, en effet, le public doit être distancié, enfin, ou en tous les cas, doit être séparé de... là, aujourd'hui, c'est quand même 4 mètres carrés par spectateur. On dit 1 mètre et demi. Alors, c'est d'abord 2 mètres, puis 1 mètre et demi. Ça dépendrait, en fait, des périodes. Il y a une étude qui a été faite la semaine dernière là-dessus. Vous imaginez grosso modo, aujourd'hui, les salles de spectacle peuvent accueillir 3 personnes au mètre carré. Donc, si vous avez une personne tous les 1 mètre et demi, ça va faire très, très, très vite. C'est-à-dire que chez nous... je dirais qu'on pourrait, dans cette salle de 1000 places, accueillir grand maxi peut-être 200, 250 personnes. C'est vrai que ça interroge, parce qu'on a tous vécu des salles pas très remplies au regard de programmations un peu audacieuses. Ça, on sait ce que ça veut dire, et on sait ce que c'est. Et on sait surtout que c'est pas du tout convivial, hein, et que ça tue un peu l'envie, quoi, de vivre un moment collectif. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il y a aussi cette espèce d'épée de Damoclès, se déplacer quelque part en disant que peut-être on va l'attraper. Et je pense qu'il peut y avoir, à juste titre, des gens qui n'auront pas envie de venir. Et puis enfin, comme vous le disiez, les masques. On ne pourrait pas avoir accès à un bar, parce que les bars, c'est des lieux de concentration. Donc, ce qui est préconisé, c'est que les bars soient fermés. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'au regard des préconisations actuelles, on peut vraiment s'interroger de l'intérêt d'organiser des spectacles. Ça, c'est sûr. Parce que il n'y aura plus ce que fait, ce que génère le concert, quoi. Cette convivialité, cette relation à l'autre, cette chaleur humaine, quoi. Enfin, je veux dire. Donc, ça, c'est vraiment problématique. Est-ce que, en effet, on doit aller dans des... Imaginez nous décentraliser dans des salles plus grandes, je commence à m'identifier, mais le problème reste le même. C'est-à-dire que si vous allez dans une salle qui peut accueillir jusqu'à 2000 personnes et que vous pouvez accueillir maxi 300, vous imaginez un peu quoi. Enfin, c'est très, très c'est compliqué, la décision est compliquée et en même temps, c'est pas du tout... qui sera préconisé dans 3 semaines, puis ce qui sera préconisé au mois de juillet, etc., etc. Donc aujourd'hui, on se prépare à ouvrir, et puis en même temps, on commence sérieusement à réfléchir, à d'autres formats, et peut-être. Moi, j'exclus pas si à un moment, en effet, on devait, parce que là, il y a une dimension économique qui joue aussi. Hein. C'est-à-dire que si vous devez acquérir Kikunja Fakoli avec 200 personnes dans la salle, économiquement, ça passe pas. Budgétairement, ça ne passe pas. Là, là vous avez un déficit. Là, il y a automatiquement un déficit de production qui est très élevé, qui est supérieur à celui à un concert qui n'aurait pas lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, donc il y aurait un problème économique. Il y aurait un problème, voilà, de, lié à ce que crée le spectacle en tant que tel. Donc, bon, après, peut-être qu'il faut organiser autre chose. Moi, quand je pense à autre chose, je me dis, bah, si on peut plus faire, en effet, si on peut pas accueillir ces artistes-là, bah, peut-être qu'on mettra à disposition la scène pour des artistes accompagnés qui ont un bon niveau, mais qui sont peu connus, et pour qu'ils puissent jouer dans un format qu'ils connaissent assez peu, qu'ils puissent travailler, répéter, et qu'ils puissent se présenter, en effet, devant un public moins nombreux. Voilà, c'est peut-être aussi une solution pour les semaines qui viennent, si objectivement on se rend compte que les propositions sanitaires sont totalement antinomiques avec notre façon d'accueillir les publics, quoi.
Et c'est vrai que cet aspect économique sur le côté entre guillemets rentabilité d'un spectacle, est-ce que ça ne peut pas influencer un directeur de programmation au sens large, hein, Olivier Galland, à se réfugier dans des valeurs sûres dont on sait que c'est le rapport qualité-prix et le rapport entre la billetterie et le coût du spectacle va être moins important et donc moins pénalisant?
Bah, c'est-à-dire que si vous faites une valeur sûre, vous allez payer un cachet qui sera élevé. Mais si vous ne pouvez pas accueillir le public en conséquence, parce que vous êtes limité dans votre jauge, là, vous aurez un déficit de production qui ne vous permettra pas d'accueillir cet artiste-là. C'est le problème que vont rencontrer de nombreuses salles, enfin, je dirais des salles de plus de 500 places. Si vous faites un artiste zénith et que dans le zénith vous pouvez pas mettre 5000 personnes mais que vous pouvez en mettre que 1500, ça passe plus, hein. Les voilà. Mais c'est comme chez nous ou comme n'importe quelle autre salle. Donc en fait, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, ça vous coûtera moins cher. Si vous faites des artistes en développement. Au fait, je sais pas, un plateau de 5 artistes qui sont vraiment locaux, bon, vous allez être sur des cachets qui sont faibles, vous aurez une billetterie évidemment qui sera faible, mais vous aurez, quoi qu'il en soit, un delta de déficit de production qui sera moindre que un artiste hyper connu. Ce qui est en fait c'est l'inverse en principe. Parce que aujourd'hui, en effet, qu'on n'avait pas ce problème de pandémie, ben, si vous avez en effet un cachet à 12 000 euros, mais que derrière vous avez 1000 personnes à 15 euros, voilà, vous avez déjà 15 000 euros, vous voyez, bon, bref. Donc, alors que parfois, vous allez accueillir des artistes peu connus, vous allez peut-être payer un cachet à 3 000 euros, mais vous n'aurez que 250 personnes dans la salle, et donc votre delta, même si c'est 10 euros, ce sera pas le même, vous voyez, donc. Il peut arriver régulièrement que le déficit de production est moindre, même si c'est souvent le cas d'ailleurs, est moindre quand l'artiste est très connu que quand l'artiste n'est pas connu. Mais là, c'est un peu l'inverse qui se joue, puisque de toute façon, les choses sont hyper limitées. Donc, voilà.
Et encore,
équation économique.
Encore en tout cas beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes. Un dossier qu'on va évidemment suivre avec attention. Juste avant de se quitter, Olivier Galland, le directeur artistique que vous êtes, a aussi l'œil aiguisé et l'oreille affûtée sur ce qui se fait dans le monde de la culture. Alors, est-ce que durant cette période de confinement où on a vu plein de propositions virtuelles, via les réseaux sociaux notamment, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé, tapé dans l'œil et que vous souhaiteriez partager avec nos auditeurs?
Bah, moi, en fait, j'ai découvert pas mal d'artistes lors d'un festival confiné. C'était au mois d'avril, hein, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Donc, il y avait vraiment beaucoup de jeunes artistes. Je serais incapable de vous dire, en tous les cas, j'étais assez surpris, en effet, par la qualité et puis par le fait de découvrir, voilà, de jeunes musiciens qui ont joué. Après, vous proposer ou avoir découvert un artiste via Internet ou enfin là je vois pas trop.
Il n'y a pas de nom, mais en tout cas, voilà, il y a quand même des choses qui vous ont marqué tout de même durant cette période de confinement. Vous avez découvert en tout cas des choses, oui.
Oui, et puis vous avez, même si vous allez sur vous allez sur notre site, vous allez écouter les productions des musiciens. On a des musiciens d'excellente qualité qui ont été diffusés. C'est vraiment très intéressant les projets. Pourquoi? C'est ça aussi qui y a la contrainte de l'acoustique. Et donc vous avez des artistes qui sont obligés de se réinterroger même dans leur propre pratique parce que ils passent quelque part d'un format très très électrique à un format plus acoustique. Donc c'est beaucoup plus épuré et quelque part c'est souvent très très intéressant. Donc vous voyez pour ceux qui connaissent par exemple. Mais vous avez aussi, j'ai vu M, par exemple, qui a fait plusieurs sessions acoustiques chez lui. On retrouvait le M des années 90, je dirais. Et c'est assez chouette, en fait, en tous les cas, d'aller écouter des artistes, quels qu'ils sont, de façon confinée, parce que ils réinterprètent leurs morceaux de façon acoustique.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Puis on rappelle aussi que pour obtenir toutes les informations concernant les reports, les ajouts de dates et toutes les informations billetterie aussi pour ceux qui souhaiteraient se faire rembourser, il y a le site internet du 99bis, www.9-9bis.com. Merci beaucoup, Olivier Galland, d'avoir été avec nous, directeur artistique et directeur général du 99bis, pour nous parler justement de la situation à Wany en cette période où la culture est dans l'incertitude. Merci d'avoir été avec nous, Olivier.
Merci beaucoup, à bientôt.
Et à 15h39 sur Radio Plus, on va faire un clin d'œil justement à un groupe qui aurait dû se produire dans le cadre de la programmation du Métaphone de Wany. Ce sont les Stuck in the Sound avec leur album Billy Believe. Le titre s'appelle Petit Chat, c'est leur dernier single en date.
Julien de 15. Le plein de découvertes musicales et de coups de cœur, c'est dans l'émission Maintenant j'y vais avec Julien de 15h à 16h.
15h42 sur Radio Plus. À l'instant, vous écoutiez le nouveau Stuck in the Sound qui s'appelle Petit Chat. Et oui, ce n'est pas que dans le titre que c'est barré, c'est aussi dans la musique, comme vous l'aurez compris. Et comme chaque fois avec les Stuck in the Sound qu'on espère bientôt revoir dans notre région. Et vous le savez, on aime aussi mélanger les ambiances. Après le rock'n'roll peut venir la douceur notamment avec Ségolène qui a été artiste accompagnée par le 99 bis de Wany. Ségolène qui s'apprête à sortir un album qui s'appellera Liberté le 5 juin prochain, qu'elle viendra nous présenter à l'antenne de Radio Plus dans cette émission Maintenant J'y vais le 17 juin. Bien, je vous propose pour découvrir Ségolène de se replonger dans son précédent disque qui s'appelait Après l'amour. Et justement, on va écouter un titre qui s'appelle de la même manière. Voici Après l'amour avec Ségolène sur Radio Plus.
Qu'est-ce qui reste? Ramasser nos cœurs en miettes, par petits bouts des gestes doux, au feu, aux flammes, nos deux corps fous. Après l'amour, comme ça bafouille, de loin nos ponts de larmes se mouillent, d'un temps trop long qu'on ne savait plus, le cœur accroché ou pendu. Stadi-dali-dali-dali, boum-boum. Mon cœur, ton cœur, son cœur, stadi-boum-boum. Stadi-dali-dali-dali, boum-boum. Mon cœur, ton cœur, son cœur, stadi-boum-boum. Stadi-dali-dali-dali, boum-boum. Mon cœur, ton cœur, son cœur, stadi-boum-boum. Stadi-dali-dali-dali, boum-boum. Mon cœur, ton cœur, son cœur, stadi-boum-boum. Après l'amour, c'est la tourmente, nos deux mémoires sont insolentes. Après l'amour reste un cri, l'absurde dit, l'absurde rit. Stadi doli dali dali boum boum, mon cœur ton cœur son cœur stadi boum boum. Stadi doli dali dali boum boum, mon cœur ton cœur son cœur stadi boum boum. Stadi doli dali dali boum boum, mon cœur ton cœur son cœur stadi boum boum. Stadi doli dali dali boum boum, mon cœur ton cœur son cœur stadi boum boum.
Ségolène à l'instant sur Radio Plus avec une chanson qui s'appelle Après l'amour, extrait du disque du même nom sur Radio Plus.
Heures, 16 heures, maintenant j'y vais avec Julien.
Let's go.
Et Ségolène qui sera donc mon invité le 17 juin prochain pour nous parler de son album Liberté qui sort lui le 5 juin. C'est l'occasion, tiens, de faire un petit jeter un petit coup d'œil sur la programmation des émissions à venir. La semaine prochaine, on parlera de la situation des attachés de presse indépendants du milieu de la musique qui s'unissent pour protester contre la situation car ils se sentent exclus des dispositifs d'aide. On recevra Elodie Savic de l'agence Singularité, attachée de presse indépendante et qui est signataire parmi 100 autres de cette lettre ouverte. Nous aurons le 3 juin prochain l'Itakira pour parler de ses 10 ans de carrière et de son nouveau single à venir prévu le 22 mai. Le 10 juin, ce sont les Misenko qui viendront présenter leur EP Les Wagons sans âme et le 17 juin, donc c'est Ségolène qui viendra parler de son album Liberté. Voilà, vous savez tout. Et puis nous, eh bien, on va continuer en musique avec une artiste qu'on avait déjà reçue dans Maintenant J'y vais, révélée au Crossroads Festival de Roubaix l'année dernière. Elle s'appelle Isla et elle a sorti un nouveau clip autour de la chanson Brain que je vous propose d'écouter sans plus tarder.
With our brains, we've found the plains of nature and we've built foundations of colossal jails. With our brains, we've put names on the traces of time. We can read through the dust of the past. We are locked into this brain is ingenious, but I'll always talk to you with my heart.
Ce joli titre entêtant, c'est Brain de Isla, extrait de l'album Les Yeux Noirs, sorti il y a 2 ans maintenant, et on aime toujours autant Isla sur Radio Plus et particulièrement dans Maintenant J'y vais. Alors on ne peut que vous recommander d'aller voir le clip de Brain sorti il y a quelques jours à peine. 15h52, mais il est déjà l'heure de se quitter, dites-moi. Alors on ne va pas traîner, on va se dire au revoir et terminer en musique. Je vous rappelle le programme de la semaine prochaine, on parlera des attachés de presse indépendants du milieu de la musique qui souffrent eux aussi des conséquences économiques de la crise du Covid-19. Et puis à suivre sur Radio Plus, c'est Bernard Editime qui donne carte blanche aujourd'hui à Katie Lucie. Et nous on va se quitter avec une session acoustique.
Même Maintenant j'y vais, session acoustique.
Et cette session acoustique, c'est celle de Lita Kira qui nous avait interprété Dans ma toile en 2017. Dans ma toile qui, tout simplement, va être le support du CD de titre qui sortira le 22 mai, avec également un titre inédit, une version réarrangée de Dans ma toile et un titre inédit qui, je ne vous en dis pas plus. Je garde un petit peu la surprise et Lita viendra nous en parler le 3 juin prochain dans Maintenant j'y vais. Tiens. Voici Dans ma toile. Très belle journée, portez-vous bien, restez heureux. Ciao, bye bye.
Radio Plus, le live.
Et petit à petit, point par point, ce n'est pas une robe que je couds, point par point. Et petit à petit, point par point, ce n'est pas une robe que je couds, point par point. Avant, j'avais peur des araignées, comme beaucoup d'autres filles déjà. Je pouvais hurler quand j'en voyais, rien d'original jusque-là. Point par point, ce n'est pas une robe que je couds, point par point. Et petit à petit, point par point, ce n'est pas une robe que je couds, point par point. C'est sûr qu'avec des jambes pareilles, on peut mieux s'agripper. Et comme les deux bras sont pareils, il y a plus de possibilités de construire sa toile d'une finesse extrême, d'envoyer au diable les amants qu'on aime, de s'envoler sans mal au bout d'un fil qui blesse, de tisser son chez soi dans tous les coins qui plaisent. Oh moucheron.
Salut, c'est Lita Kira sur Radio Plus.
Avant, j'avais peur des araignées. Oh là là, peut-être que toi aussi. Je ne te l'ai jamais demandé. Oh là là, mais j'imagine que oui. Point par point, ce n'est pas dans mon lit que j'attire mes copains. Et petit à petit, point par point, ce n'est pas dans mon lit que j'attire mes copains. Qu'importe si j'ai perdu la vie, je sais que tu me la rendras quand tu seras au chaud dans le vent.